Hello et bonjour au show Minter Dialogue, épisode numéro 114. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast. Mon invité aujourd'hui est Pauline Ponce. Pauline est historienne de l'art, auteure et conférencière. Après son livre « Comment distinguer un chef-d'œuvre d'une croûte », elle a sorti en 2020, aux éditions Bayard et Musée d'Orsay, « L'art pas bête ». Dans cet entretien avec Pauline, nous discutons du rôle que peut jouer l'art et l'architecture pour le business, le besoin de plus d'aventure et de l'innovation, l'intérêt de la surprise, la différence entre la beauté et l'art, les beaux-arts et l'art décoratif, et bien plus. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Pauline Ponce, ravie de t'avoir sur mon show. On s'est rencontrés grâce à notre ami en commun, Hervé Franceschi, et nous avons participé ensemble en tant que co-panéliste sur la transparence et le leadership. Tu es quelqu'un qui connaît beaucoup de choses sur l'art et l'architecture, et tu amènes ça dans le business. En tout cas, c'est comme ça que je te perçois. Pauline, comment est-ce que tu souhaites te présenter ?
Écoute, d'abord, je te dirais peut-être que je suis fille de peintre, sœur d'artiste, filleule de sculpteur. Donc, il y a quelque chose en moi qui m'attire forcément vers le monde de l'art depuis toujours, alors que l'entreprise, c'est plus récent dans mon existence. Mais en tout cas, j'aurais envie de te dire que l'art était un sujet banal à la maison qui pouvait justement croiser plein d'autres sujets sur l'actualité, sur la marche des entreprises, etc. Et c'est cette connivence et ces échanges, on dirait nous, transdisciplinaires aujourd'hui, mais c'est un jargon un peu universitaire, m'ont amené des années après à vouloir à mon tour parler d'art aux entrepreneurs et d'entreprise aux artistes, parce que ça vaut dans les deux sens plus exactement. J'ai rencontré plus tard, adulte, des mondes cloisonnés comme étanches, et c'était vraiment un constat qui ne me rendait pas très heureuse, dans la mesure où j'avais envie que ça soit une manne universellement partagée, quelque chose d'assez accessible à tous, l'art en l'occurrence. Donc je pense que c'est le moteur de ma carrière professionnelle, en tout cas.
Quand j'étais chez L'Oréal, je travaillais avec des coiffeurs et on disait souvent, pour rebondir sur l'idée dans les deux sens, on disait toujours que les coiffeurs, c'est des artistes. Et en étant des artistes, ils ne se vendent pas, ils ne savent pas se vendre. Et donc, ils ont besoin d'un encadrement, savoir que la rentabilité va bien. Et la deuxième réflexion, c'est quand j'ai postulé chez L'Oréal, j'étais interviewé par un homme qui s'appelle Philippe Louvet, dont je m'en souviens toujours de notre conversation. Et avec beaucoup de douceur à la fin, il a dit « Il y a une chanson que tu devrais écouter, Minter. » Alors que je sortais de l'MBA, je côté hyper sérieux, business et tout. Et ça s'appelle « Le blues du businessman ». Et dans lequel il y a une fameuse ligne, enfin j'adore cette chanson depuis, je l'ai découvert grâce à lui, c'était que j'aurais voulu être un artiste. Et en fait, c'était comme si être artiste et être businessman n'étaient pas cohérents.
Incompatibles.
Et j'avais l'impression que c'était le message qu'il voulait au final que j'aie. Mais toi qui es experte de l'APM, tu parles de l'art comme source d'innovation et de créativité. Parle-nous, enfin on va en parler, mais parle-nous du rôle, l'intérêt de l'art dans le business.
Alors, Le rôle de l'art, le premier, c'est celui d'offrir en fait à des dirigeants qui font beaucoup appel à leur intelligence et qui doivent résoudre chaque heure qui passe des problèmes de manière assez rationnelle, c'est leur offrir une sorte de sas dans lequel ils vont pouvoir explorer d'autres facultés qu'ils ont en eux et qui pourraient, je dis bien qui pourraient seulement, hein, laisser en friche, car tous n'ont pas une pratique artistique en dehors du business ou ne sont pas musiciens, etc. Et mon premier pari, c'est ça, c'est de le, entre, un peu par provoque, de leur dire bon, ben, est-ce que vous êtes prêts à perdre du temps avec moi, à regarder une œuvre d'art, une sculpture, une peinture? Mais quand je dis Minter, prendre du temps, hein, ça peut être 3 heures devant une œuvre. Hein. Ouais. Certains m'ont dit, écoute, tu m'as fait vivre plus de temps devant une œuvre que dans toute ma vie d'entrepreneur, parfois aujourd'hui. Et de découvrir ensemble, par le collectif, parce que j'ai élaboré une sorte de grille de lecture, si tu veux, d'une œuvre d'art qui leur permet d'avancer dans la découverte de l'œuvre ensemble, de confronter leur point de vue, de ne rien laisser complètement à l'écart en ce qui concerne les grands enjeux de l'œuvre, mais en même temps de s'autoriser à être à l'écoute, bien sûr, de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils voient, à le formuler aussi, ça c'est très important, c'est-à-dire je leur fais prendre conscience que bien sûr l'œuvre d'art se ressent, bien sûr elle inspire des émotions, mais si tu t'en tiens là, tu n'en feras rien. Tu repartiras pas du musée renseigné sur toi-même et ni sur le monde qui a conçu cette œuvre et dans le cas de chef-d'œuvre, ni sur ce qu'elles ont pu percevoir, ces œuvres, ce qu'elles disent des siècles aussi à venir, hein, parce qu'il y a une dimension à laquelle je tiens beaucoup dans l'art, quasiment prémonitoire. Donc. Et si tu veux, voilà ce que je leur propose comme expérience depuis plus de 10 ans maintenant, c'est de perdre ce temps-là pour au fond en gagner, hein, et surtout se découvrir eux-mêmes, non pas artistes, voilà, au sens un peu commun du terme, il ne s'agit pas de verser dans la démagogie, un artiste c'est comme un chef d'entreprise, ça bosse dur, hein, pour accoucher d'un chef-d'œuvre, donc c'est des années de travail, mais au moins de leur faire sentir que d'une part, c'est accessible, que ce ne sont justement pas deux mondes hermétiques l'un à l'autre, mais qu'en plus, ils peuvent, les uns des autres, apprendre beaucoup. Voilà. Et ça, c'est, si tu m'interroges là-dessus, je te dirais, voilà, la deuxième mission que, peut-être plus large que je me donne, c'est de remettre l'art au cœur de la cité, parce que en tant qu'historienne de l'art, j'ai pu observer à travers diverses époques qu'on appelle des âges d'or, si tu veux, que ça soit dans la peinture, la littérature, l'architecture, hein, tous les domaines à un moment atteignent une sorte d'apogée, et en général cet apogée n'est possible que parce qu'il y a un mécénat qui soutient cette élite culturelle, et ce mécénat a l'intelligence, je dirais même le génie des artistes qu'il soutient. Tu ne verras pas un chef-d'œuvre sans un mécène derrière, non seulement généreux, mais génial. Hein. Si je ne prends que les Médicis comme exemple, tu le sais, moi, Florence est devenue le phare de l'Europe au XVe siècle, à l'heure d'un Brunelleschi, d'un Masaccio, d'un Botticelli, d'un Frangelico, d'un Alberti, bientôt d'un Léonard de Vinci, d'un Michel-Ange. Ça n'est pas par hasard. Je veux dire,
grâce au banquet.
C'est grâce au banquier, mais c'est surtout aussi grâce à un attachement à la liberté, hein, à la res publica, on l'appelait comme ça, dans la Florence du XVe siècle, qui fait qu'il y avait une sorte de libre entreprise et de liberté qui permettait à ces négociants de côtoyer tous les jours des artistes de génie de se servir mutuellement, hein, de se renvoyer mutuellement aussi des... quelque chose qui leur permet d'exister ensemble au cœur de la cité. Et évidemment, il y a toute une littérature là-dessus, hein, sur le lien indissociable entre essor artistique et essor économique.
Quand je pense, moi, à l'arrivée sur l'art et le business, pour moi, dans mon voyage, je travaille dans une banque d'investissement à New York. Et c'était une banque d'investissement petite, mais célèbre, en partie parce qu'il y en avait un des trois fondateurs qui était un grand mécène, qui avait une énorme collection d'art. Et il se faisait un plaisir de décorer, surtout l'entrée, de beaux chefs-d'œuvre. Et en fait, après, je me suis dit, les banquiers avec le sens de beauté, l'œil critique de l'art, je n'étais pas convaincu. En revanche, cet homme, Donaldson, était Dick Jenrette, pardon, était extrêmement, il s'y connaissait. Mais en revanche, j'imagine-toi, tu rentres dans un bureau, tu vois de l'art sur les murs, parce que c'est souvent comme ça, ça peut, enfin, les enrichent, les assureurs, machin. Et j'imagine que toi, tu as un œil extrêmement différent du mien, car en fait, tu es averti, tu comprends tellement plus de choses. Il y a ce qui est voulu par le chef qui a décidé d'avoir ce tableau, parce que j'adore Monet, j'adore ceci, voilà, d'accord, très bien. Mais qu'est-ce que ça en dit sur l'entreprise? Alors, est-ce que tu as des exemples dans ta tête, ou est-ce que tu n'attaches pas autant de signification que moi?
Alors, j'ai un exemple qui me vient justement des Médicis, là encore, mais c'est pas une dérobade de ma part, mais ça résonne tellement avec ce que tu dis. Les Médicis soutenaient certaines œuvres, et les artistes surtout, qui les concevaient dans des lieux publics, qui avaient à charge, évidemment, de faire passer certains messages, et celui de la Res Publica dont je parle. Donc, tu vas avoir dans des lieux publics à Florence, dans la première moitié du XVe siècle, des lieux soutenus par les Médicis, des œuvres aux couleurs assez austères, justement, avec une perspective monocentrée, etc. Et puis, à l'intérieur des palais, tu as la fameuse Vénus de Botticelli, qui est peut-être la première fois que la
séduction… Très provoque.
S'invite comme ça dans la peinture depuis 1000 ans de Moyen-Âge. Donc l'innovation, elle est dans tous les sens. Ce que je perçois dans les lieux que tu décris modernes, c'est plus… souvent, je n'ai pas accès, contrairement aux qualités que tu me prêtes, à l'histoire de ces œuvres d'art. Et du coup, je peux avoir un avis, bien sûr, mais qui n'intéressera personne ici. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir en quoi ces œuvres qui sont présentées dans les sièges sociaux, les entreprises, etc., ont été choisies uniquement par une personne, sont imposés du coup à l'ensemble des visiteurs et des salariés, bien sûr. Et ce qui m'intéresse, ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est de faire un peu plus que une œuvre, on va dire, un peu ostentatoire, à la gloire du propriétaire, parce que ça a toujours aussi existé, hein, je te rappelle.
Chez les Medici aussi.
Chez les Médicis, mais aussi chez tous les grands bourgeois du XVIIe siècle hollandais qui avaient remporté certains succès économiques. La nature morte qui présente le homard, si tu veux, c'est l'équivalent d'un très beau meuble de boule dans une entrée. Hein. C'est « regarde-moi, j'ai réussi » et en quelque sorte, j'ai passé un pacte avec l'artiste pour que sa virtuosité technique soit conforme à l'idée que je me fais de ma propre richesse. Voilà. Bon, alors cette dimension, elle existe et elle existera toujours, d'après moi. Mais c'est qu'est-ce que font les entreprises aujourd'hui lorsqu'elles ont une politique de mécénat réelle pour que cela devienne un projet, on va dire, justement de rencontre et de reconnaissance mutuelle au sein de leurs équipes. Voilà quelque chose sur lequel je travaille actuellement et qui m'intéresse davantage. Parce qu'au fond, c'était aussi présent chez les Médicis. Il faut savoir que tous les matins, Laurent le Magnifique, en l'occurrence Laurent de Médicis, réunissait des poètes, des musiciens, des philosophes, des stratèges, hein, Machiavel en tête, pour échanger. Eux-mêmes écrivaient de la poésie, jouaient d'un instrument de musique et partageaient justement quelque chose d'absolument gratuit à première vue aux antipodes des affaires, avant justement de retourner à leur négoce. Et ça, c'est aussi un exemple que je prends auprès de mes chefs d'entreprise. Quel est le moment dans la journée ou dans la semaine que vous prenez, non seulement pour vous nourrir d'autre chose que les affaires strictement, mais aussi pour accueillir une sorte de cénacle comme ça, et ça peut être parmi vos salariés. Est-ce que vous savez qui joue du piano parmi vos salariés, par exemple? Tu vois, ça commence comme ça. Et en tout cas, moi, je le vis chaque jour dans mes rencontres au sein des entreprises. C'est un révélateur extraordinaire, l'art. Justement, le regard change complètement sur ton collaborateur le moment où il va te parler, pas forcément d'une activité qu'il pratique lui-même, mais d'un choc qu'il a eu devant une œuvre dans tel musée il y a tant d'années, etc. Il y a quelque chose qui devient transparent derrière l'opacité que requiert le rôle social et qui a à voir avec la sensibilité, l'être profond. Et ça, lorsque les entreprises aborderont le mécénat comme moyen de se recentrer aussi sur les compétences réelles et profondes de leurs salariés, je me dis que ça sera un des usages de l'art les plus intéressants.
J'ai une petite histoire qui nous relie là-dedans, parlant des capacités, les connaissances des employés qui, en dehors du boulot strictement, et le musée. Et il s'agit d'un musée aux États-Unis qui parle je pense que c'est autour des westerns de ce genre. Et pendant la pandémie, ça a été, tout le monde était mis à côté, il n'y avait plus de visites au musée dans le lockdown. Mais en revanche, ils voulaient garder le lien, donc ils ont mis social media, la personne ne peut pas. Et tout d'un coup, il y a l'homme qui était le garde, enfin, il était pas le garde du corps, mais celui qui est qui protège tout le monde, qui a un pistolet, qui est là et qui n'avait plus de boulot. Et attends, mais moi, j'adore le sujet de ce musée, les westerns, et il s'est mis, lui, à le faire. Alors qu'apparemment, il n'avait même pas de diplôme, enfin, il n'était pas du tout grande éducation. Mais il était tellement intéressé qu'il s'est mis à décrire des scènes qui étaient dans le musée, à parler à sa manière, avec des fautes de frappe, avec vraiment pas parfait, comme on peut imaginer. Quand généralement, les entreprises, c'est... Il faut que ce soit bien avec le « et », le « e », etc. Et donc, ils ont découvert un talent. Et cet homme et son compte, le compte du musée, a été, mais fulgurant.
Tiens.
C'est beau, hein?
Mais oui, c'est magnifique. Mais ça ne m'étonne pas. Oui, oui, oui.
Parce qu'il était naturel, il était passionné. Alors, un sujet pour moi par rapport à ce que tu racontes, parce que l'intérêt de l'art, moi, je le comprends bien pour plusieurs raisons. Dont tu as dit l'idée que l'artiste, c'est un peu l'œil vers l'avenir. Et j'ai envie de dire, si on reste sur le cas francophone, la capacité des entreprises à embaucher des anthropologues, des sociologues, des artistes dans le business. Où est-ce qu'on en est par rapport à toi? Est-ce que c'est vraiment un champ qu'il faudrait développer? Comment faire?
Ah, c'est une excellente question. J'ai pas la prétention d'avoir réalisé une étude là-dessus précise.
Bien sûr.
Ce dont je peux te parler, c'est le profil en fait maintenant des grandes écoles de commerce a un petit peu évolué de ce point de vue-là. Il y a 20 ans, on va dire, c'était encore, tu avais ton bac C, l'excellence, la prépa, les très bonnes notes, etc. Tu savais faire un calcul de haut niveau et tu étais pris d'une certaine manière. On a vu depuis les dix dernières années des profils plus littéraires être choisis dans ces grandes écoles de commerce. Avec à l'issue du grand oral, comme on dit, hein, la perception par le jury, d'un profil qui sortirait un petit peu de l'approche binaire des choses. Hein. Je ne sais pas si on l'a évoqué là, que j'avais donc commis deux livres. Et le premier,
oui, oui, on va en parler, on va en parler.
Voilà, le premier en co-écriture et qui porte le nom donc, « Comment distinguer un chef-d'œuvre d'une croûte ?» Et si tu veux, ce livre, je l'ai conçu précisément en pensant au premier public que j'ai eu, parce qu'à l'époque, j'ai été intervenante auprès de Centrale, justement, il y a 20 ans. J'ai eu des jeunes centraliens comme étudiants. Et je voyais bien qu'il y avait une tendance à vouloir, au-delà de la réponse claire et précise, se débarrasser de la chose en même temps. C'est-à-dire, comment distinguer un chef-d'œuvre d'une croûte si on pouvait enfin avoir une bonne méthode et gagner du temps, et si on peut de l'argent, hein, pour ne pas acheter une croûte et se faire avoir, et à l'inverse, faire une affaire en achetant un chef-d'œuvre. Et je me suis dit que le premier antidote contre cette attente un peu manichéenne des choses, c'était précisément de leur faire éprouver le jugement esthétique dans sa durée. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à les mettre 3 heures devant une seule œuvre. J'ai commencé avec les centrales il y a 20 ans. Et ça, ça a tellement bien marché que certains d'entre eux sont devenus cinéastes, anthropologues.
Incroyable, incroyable, génial. Et on en a drôlement besoin. Il ne faut pas que ça, les grosses têtes ne soient que intéressées par les maths et l'ingénierie.
On sait que c'est, en tout cas dans les affaires, si tu veux, on l'a. Alors ça, c'est aussi un autre dada que j'ai. C'est
pour
que...
parler d'autres références artistiques, le dada.
Ouais, voilà, les dadas l'avaient très très bien compris. Il faut surtout savoir aussi être un aventurier. Et sur ça, mes dirigeants ne sont pas en reste. C'est peut-être ce qui partage le mieux avec l'artiste. C'est cette capacité à s'ouvrir, on parle d'avenir aussi, à ce qui va advenir précisément. Et donc, qu'est-ce qu'on met en place pour favoriser en fait ce qui vient par surprise, hein, parce que la première chose que je rappelle à mes dirigeants dans l'innovation artistique, il y a tout un contexte bien sûr qui va favoriser les conditions de l'avènement, en l'occurrence de l'innovation, mais l'innovation, elle, chez l'artiste, elle arrive par surprise. Elle arrive par surprise. C'est « je n'ai pas de bleu, je vais mettre du rouge », nous dit Picasso, et je vais bien voir là où ça va m'amener. Ou Soulages qui dit « c'est ce que je fais qui me dit ce que je cherche hein. ». Donc, libérer aussi les centraliens de l'intention, de la volonté de poser un concept, ensuite de le vérifier, etc. Et d'inverser plutôt les choses en les laissant considérer une contrainte aussi comme une opportunité. Hein, ça, c'est un des moteurs de l'innovation, justement, artistique. Voilà, et c'est sur ça qu'il se retrouve complètement avec les artistes. C'est très intéressant, mais encore faut-il quelqu'un qui le leur montre. Hein, mais,
Qui fait le lien.
Et qui fait le lien, oui.
Ton livre, quand je l'ai lu la première fois le titre « Comment distinguer un chef-d'œuvre d'une crotte », j'ai lu. c'est pas politically correct, je m'entends, qui est aux éditions Palette en 2013. Ça m'a fait penser à la distinction entre l'art et la beauté.
Oui.
Et la beauté, c'est encore un autre sujet dont on ne parle pas beaucoup au business, tandis qu'il y a des gens un peu Steve Jobs qui avaient un œil sur la beauté. Il y a évidemment des gens qui sont des esthètes, qui sont à la tête de grandes entreprises. J'ai un copain en Suède, très esthète, qui lui parle du manque cruel de beauté dans le business. Mais alors, ma petite idée, puisque je ne suis pas expert, c'est que la beauté, pour moi, ça demande d'être présent. L'art, ça me projette. Mm-hmm. Donc, j'ai envie de dire, il y a un qui, maintenant, j'apprécie la beauté de ce qui est là. Mais l'art, ce n'est pas forcément beau. Enfin, c'est messager, c'est transcendant, c'est d'autres phénomènes. Enfin, c'est comme ça que je le vois, mais enfin, parce que je ne suis pas capable de savoir Comment tu réagis par rapport à ça?
Ah bah là c'est le sujet de philo, de dissertation, de terminale que tu nous
Ah,
donnes.
oh, ouais, tu as vu, j'ai pas fait ça, j'ai été élevé dans d'autres circuits.
Alors, il va me falloir 3 heures pour te répondre.
Aïe, 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 tant mieux, tant mieux.
Non, alors si tu me permets, je vais proposer une autre distinction pour éviter aussi la dissertation, mais ça serait de parler des beaux-arts qui incluent depuis l'Académie de peinture, à la fois la peinture, la sculpture et l'architecture, et de les distinguer avec les arts décoratifs, par exemple. Les arts décoratifs avaient pour mission d'être utiles, c'est certain, mais d'être beaux aussi, hein, les arts décoratifs, où tu parles de Steve Jobs, le design, hein, c'est précisément la définition du design, c'est abolir les frontières entre l'art et l'artisanat afin de créer une nouvelle esthétique industrielle qu'on appelle le design. Hein. En gros, c'est ça. Et ça, c'est effectivement, tu as raison de parler de beauté pour ça. Mais qu'est-ce qu'on entend par là? On entend quelque chose qui est agréable à regarder, qui ne va pas perturber, encore moins questionner celui qui le regarde.
C'est existentiel.
Voilà, c'est pas le livre de l'intranquillité de Pessoa, pour résumer les choses, tu vois. Alors que je crois que dans chaque chef-d'œuvre des beaux-arts, pour caricaturer un peu, on rencontre l'intranquillité, c'est-à-dire la question existentielle par excellence, qui sommes-nous, où allons-nous, et la question de la finitude humaine, bien sûr. Tu ne peux pas regarder un Giacometti sans penser à la finitude humaine. Bon, je prends un exemple caricatural. Mais pour en revenir à ta question de l'importance du beau en entreprise, je te parlerai d'un compatriote à toi, alors peut-être Frank Lloyd Wright, qui est pour moi un modèle absolu, qui est le génie de l'architecture américaine et qui, avec sa fameuse compagnie, la compagnie John Johnson, comme tu sais, a fait quelque chose qui a évidemment été célébré dans le monde entier, en pulvérisant le budget qui lui était alloué. Mais
côté artiste.
Voilà, le côté artiste, mais en innovant jusqu'au point de faire avancer toute l'architecture dans son ensemble, il a offert justement une entreprise dans laquelle, par exemple, aucun angle droit agressif ne pouvait heurter qui que ce soit. Tout est courbe, l'harmonie est aussi bien chromatique que tactile, c'est tous les sens qui sont exaltés. Le génie de Wright, c'est de le faire en banlieue de Chicago, alors que c'est pas beau autour, mais que donc tout est ramené à l'intérieur de l'entreprise. Et chaque poignée de porte, chaque chaise a été dessinée par Wright. Donc, t'imagines l'œuvre d'art totale, absolue. Tu rajoutes à ça l'auditorium, c'est-à-dire aussi le lieu de l'art. Les célébrations qui s'y jouaient, la présence de l'eau, bien sûr la nature, puisque l'open space n'est qu'une sorte de forêt cathédrale, si tu veux. Bon, non seulement les Johnson se sont retrouvés sur l'investissement, mais ils ont triplé leur chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'on a pu démontrer, en l'occurrence, qu'un travailleur dans un environnement hyper beau était beaucoup plus efficace aussi, hein, même si ça chatouille certains de le dire comme ça, ça a été, il y a eu un retour sur investissement considérable. Et ma croyance à moi, en tout cas, je veux bien reconnaître que c'est une croyance, c'est de dire que voilà, ce qui est beau est bien est bon. Et là, on retrouve le précepte platonicien, en tout cas au sein de l'entreprise. Voilà, ils n'ont pas besoin d'avoir Guernica sous les yeux, tu vois la différence, quoi, parce que c'est peut-être, ça serait peut-être même contre-productif.
Aller à la guerre. Ta référence à Frank Lloyd Wright, je pensais à Gaudi avec ce côté toujours dans les rondeurs.
et qui est mon maître et qui était aussi une des références absolues de Wright, parce que Wright a inventé l'architecture organique du XXe siècle, mais Gaudi avait commencé, ainsi que tous les architectes Art Nouveau, à prendre la nature comme source d'inspiration première, contre 400 ans d'exemples empruntés à l'antiquité gréco-latine.
Donc, en t'écoutant, donc les connexions dans ma tête, les neurones sont en train de partir à droite et à gauche, comme tu as tendance à me faire, Pauline. Quand j'étais embauchée chez L'Oréal, il y avait des choses qui étaient extraordinaires. Et un, c'était le principe qu'un L'Oréalien devait être en partie paysan, en partie poète. Et quand bien même pas tout est parfait, on va dire, chez L'Oréal, ni quelle que soit l'entreprise, c'est quand même extraordinaire, cette société. Et il y avait des gens d'exception. Et je me demande à quel point ce côté beauté du flacon joue un rôle de la puissance de L'Oréal. C'est tout, c'est juste, enfin, il y a le côté pratique, il faut sur le rayon, il faut avoir une rapidité de production industrielle. Mais il y avait constamment, je m'en souviens bien quand même, et puis les conversations par rapport à la croûte ou la crotte dont je parlais tout à l'heure, comment dire que ce flacon est beau? Sur quel principe puis-je m'appuyer? Ah, ça me rappelle Giacometti, ça me rappelle Donatello. Ok, bon. Ça, c'est des références qui permettent d'asseoir ton appréciation. C'est parce que je suis lettré, je suis cultivé, je connais mes références et ça permet de dire que ce flacon me rappelle un flacon à Florence ou une forme d'architecture. En tout cas, est-ce que tu as une vision là-dessus ou comment tu réagis par rapport à ça?
Là, ça serait ce qui fait la beauté d'un objet. On en a un petit peu parlé avec Wright, c'est son ergonomie aussi, hein, tout simplement, c'est-à-dire celui qui le conçoit dans une perspective un peu organique, justement, doit penser à la prise qu'on aura dans la main, hein, si tu veux.
C'est pratique.
C'est pas seulement pratique, toi qui citais Gaudi, quand tu regardes un meuble de Gaudi et que tu vois la poignée de ces meubles, on a l'impression qu'elles sont une excroissance du meuble la main a poussé, si tu veux, et cette excroissance est un appel à notre propre aspiration tactile, en fait. C'est comme deux mains qui vont se rencontrer. En fait, je te dirais, ça c'est un truc que les Américains ont très très bien compris aussi, c'est le streamline, ce qu'on appelle le streamline, c'est justement, c'est tout l'art déco aussi, et c'est Frank Lloyd Wright, c'est cette idée de créer des formes aérodynamiques qui vont générer, alors moi je ne suis pas spécialiste en neurosciences du tout, hein, mais des sensations, des connexions chez l'humain qui vont précisément l'inviter à se mettre en mouvement, lui donner envie de toucher, voire de goûter, parce qu'il y a des formes, ça c'est aussi certains artistes qui ont étudié ça, qui appellent certaines couleurs, qui appellent certaines matières, tu vois. Donc, c'est l'ensemble de ces correspondances, te dirait Baudelaire, parce qu'au fond, c'est Baudelaire le premier qui en parle, sensorielles, et qui vont faire que l'objet va avoir un maximum de potentiel sexy, hein, j'ai envie de dire, même pour son acheteur, quoi, parce que d'une certaine manière, c'est de sensualité aussi dont on parle. Il faut créer le désir chez l'acheteur, il me semble, et pour cela, eh ben, il faut d'une certaine manière le capturer. Et en organisant une sorte de concert sensoriel, c'est la meilleure manière de capter non seulement l'attention, mais d'inciter à l'achat. Et puis, il y avait Lévy, là aussi, le franco-américain qui a dit la laideur se vend mal, hein, dans l'entre-deux-guerres, tout simplement. C'est le béaba du design et nous avons intérêt à soigner les formes et tout. Et là, c'est tout l'essor de l'art déco extraordinaire de l'entre-deux-guerres, en pleine crise cependant, je te rappelle. Donc, c'est assez intéressant parce que là, on va avoir tout le cinéma américain qui va aussi donner à voir des intérieurs comme ça, somptueux, avec un mobilier qui atteint des sommets en raffinement, l'ivoire qui vient d'Afrique, l'écaille de tortue, tu vois, on n'a jamais eu autant de préciosité que dans le mobilier art déco. Et voilà, tu rajoutes une belle actrice dans un contexte comme ça et tu fais rêver l'Amérique entière qui est pourtant au plus mal, quoi. Donc, c'est très, très puissant quand on pense.
Ça a l'air du propagande. Attends, à t'écouter comme ça. Enfin, évidemment, ce n'est pas exprès. J'ai deux autres questions pour toi avant de terminer la première. Donc, tu as sorti un livre l'année dernière aussi, oui. Pauline. Donc, celui-ci s'appelle L'art pas bête.
Absolument.
Aux éditions Bayard et Musée d'Orsay, donc 2020. Et L'art pas bête. Et j'ai adoré le concept. Je ne l'ai pas lu, donc total transparency. Mais L'art pas bête, il s'agit d'un livre pour expliquer l'art aux jeunes. C'est ce que j'ai compris.
Tout à fait.
Alors, comment est-ce que je devrais refaire mon parentage avec mes enfants pour ça?
Alors, déjà, la bonne nouvelle, c'est que oui, c'est pour les parents, les grands-parents. Tu pourras toujours te rattraper si tu as des petits-enfants.
Génial. Round two, ding, 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 ding.
Au fond, effectivement, ce livre, je l'ai conçu en pensant à ces questions que j'ai pu entendre lorsque j'étais moi-même gardienne, quand j'étais étudiante, en fait, j'ai étudié les lettres, la littérature avant de l'histoire de l'art. Et du coup, j'avais comme job d'été d'être... aux gardiennes au musée d'Orsay. Hein. C'était les débuts du musée d'Orsay et c'était en plein essor et donc rien ne me régalait plus que d'entendre les commentaires devant les œuvres. Et du coup, bon, tu as la question banale, pourquoi il y a autant de nus dans la peinture, par exemple, hein. Ça, les enfants vont le dire et ils vont avoir toutes sortes de réactions par rapport à la nudité. L'adulte, lui, va le penser tout autant, mais ne le formulera pas, hein, ou alors...
censure.
Censure, voilà, exactement. Et puis l'historien d'art, lui, évidemment, sait que derrière le nu, il y a évidemment quasiment un fil rouge qui permet d'appréhender toute l'histoire de l'art, quasiment. Donc, c'est de répondre à des questions soi-disant naïves, en fait, qui m'a intéressée pour... c'est toujours ce qui m'intéresse le plus, hein, pour montrer à quel point ces questions peuvent concerner l'ensemble d'entre nous, de tous les visiteurs du monde, et nous relier à au-delà d'une culture commune, à quelque chose que nous partageons tous, que nous avons tous en commun. Voilà. Et toute l'intention de ce livre, c'est ça, c'est de te dire, bah voilà, tu peux aller au musée en traînant les pattes, en te disant, oh là là, ça va, quand est-ce qu'on sort, j'ai faim, ouais, etc. Mais tu peux aussi te dire, waouh, ça peut me faire gagner un temps de malade par rapport à des cours ennuyeux qu'on a eu tous pendant des centaines d'heures sur, alors, la révolution industrielle, ou alors, la Renaissance.
La date, ceci.
Voilà, hein, en une œuvre, tu as un concentré, c'est le miracle de l'art, et il suffit de se poser 2-3 questions. Je mets aussi une petite méthodologie à l'intention des parents qui veulent jouer le jeu avec leurs enfants. Il faut juste s'asseoir devant l'œuvre. Il y a une méthode la plus simple, c'est s'en foutre des consignes du musée, même s'asseoir par terre s'il le faut, mais parce que personne n'aime regarder debout et sentir la fatigue dans les jambes. Être à 2, ça suffit déjà, à 3, bah, très bien, voire à 4. Et on commence à se poser les uns aux autres 3 questions. Que vois-tu? Que ressens-tu? Et à quoi cela te fait-il penser? Et tu vas voir, Minter, qu'au bout de cet échange, cette ronde, si je puis dire, la famille, une telle, sans culture spécifique en art, va trouver quelques fondamentaux sur lesquels les historiens d'art peuvent passer une vie entière à plancher.
Parce qu'ils ont en fait besoin de connaître rien pour pouvoir dire ça et répondre. Donc, il n'y a pas de barrière à l'entrée.
Alors, c'est pas rien, c'est pas exactement ce que je dis, c'est plutôt se rendre compte de ce qui est, de ce qu'ils sont capables de dire, de voir et de comprendre par eux-mêmes, quitte ensuite à aller chercher les informations qui ne sont que des informations, hein, j'exagère à peine, pour venir nourrir leur réflexion et la valider ou au contraire l'invalider. Parce que ça, c'est la dernière chose que, si tu veux bien, je vais partager avec toi, qui est un peu plus délicate à faire comprendre au commun des mortels qui ne s'intéressent pas spécialement à l'art, c'est que sous prétexte que l'art ne livre pas son mode d'emploi, on pourrait tout dire et son contraire sur une œuvre d'art. Et ça, ben non, c'est pas vrai. Mais est-ce qu'on peut tout dire et son contraire sur Minter, sur ton entreprise, sur quoi que ce soit? Pourquoi est-ce que l'art serait-il une exception? Et pourquoi c'est en art qu'on pourrait tout dire et s'autoriser à tout penser? Oh, ben, de toute façon, c'est une affaire de goût personnel. Voilà, c'est quelque chose que j'entends tous les jours. Ça, c'est bon pour les paresseux. Ou, là je suis un peu dure, ceux qui ne veulent pas comprendre que l'art peut être un phare dans leur vie, tout simplement un moyen de se dépasser un peu, d'aller un peu plus loin que ses propres visions et de se confronter aussi à une construction du monde qui a été, je le disais il y a peu, l'effort d'une vie. Parce que quand même, réduire un chef-d'œuvre à une sensation, à une émotion, c'est quand même faire l'impasse sur une vie entière consacrée à regarder le monde et à le dire de telle sorte que ça nous éclaire, nous autres qui sommes mus par d'autres activités, tout aussi nobles. Hein. Il ne s'agit pas de mettre l'artiste sur un piédestal, il s'agit juste de rappeler qu'il consacre sa vie entière à son art. Et qu'au nom de ça, bah, si on a envie, on peut au minimum se poser quelques questions. Et la bonne nouvelle, c'est que tout le monde est au même niveau dans une famille, à moins qu'il y ait un membre qui ait fait l'histoire de l'art. Bah, dans ce cas-là, cette personne-là servira un petit peu à éclairer les autres, mais on se rend compte, et c'était le sujet de mon premier bouquin, que les spécialistes eux-mêmes peuvent être complètement aveuglés par leur connaissance face à un chef-d'œuvre. C'est-à-dire que la culture ne saurait être en aucun cas la seule porte d'entrée dans une œuvre d'art.
Enfin, quand je disais que tu n'avais pas besoin de connaître, c'était ça, c'était justement ce nivelage qui permettait moi de... Qu'est-ce que je vois? Ben, je vois une nue, d'accord, bon, enfin, très bien. Donc, en termes de positivisme pour un jeune, ah oui, ben voilà, j'ai raison, j'ai vu une jeune nue... Et qu'est-ce que ça te fait ressentir? S'il n'y a que moi qui sais que je l'ai ressenti, enfin, etc. Donc, c'était des questions, et j'ai envie de dire, qui sont des questions qu'on peut poser outre l'art, par ailleurs, sur plein d'autres sujets.
Absolument, absolument. Et je te rejoins complètement, il ne faut absolument pas être complexé devant une œuvre pour cette raison-là. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que ça nous rend voyants de regarder une œuvre d'art. Dans tous les sens du terme. Voilà. Et si on a envie, au bout de quelques années, on peut même avoir accès à certaines réalités que d'autres ne verront jamais, quoi.
Alors, j'ai envie de t'interroger sur une autre question qui me vient à l'esprit maintenant. C'est parce que tu... Et je pense que tu as bien raison sur cette histoire d'effort.
Oui.
Mais aujourd'hui, il y a une tendance qui est décontextualiser une œuvre d'art et de dire que ce n'est pas beau aujourd'hui. Par exemple, des statues de personnes qui auraient été des mécènes à un temps, qui auraient, par exemple, envoyé des bateaux d'esclaves et s'est fait de l'argent, et donc ensuite enfin, devient mécène. Alors, son statue ne vaut pas ce que ça valait avant. Je prends ça comme un exemple parmi d'autres. La décontextualisation de l'art, qu'est-ce que dit Pauline Ponce?
Ah, c'est génial comme question aussi. C'est pareil, ça mériterait un large développement. Il y a eu un formidable documentaire National Gallery sur la National Gallery. Je te le conseille, je le conseille à tout le monde. C'est le seul musée où tu entends des guides parler ouvertement du rapport entre l'esclavage et la possession de chefs-d'œuvre et d'exposition de chefs-d'œuvre dans un musée. Nous n'avons pas cette franchise-là, je ne l'ai jamais entendue chez un conférencier ou une conférencière du Louvre. Je dis que c'est très important, pour les historiens d'art, c'est même un prérequis, hein, de contextualiser une œuvre d'art, mais tu vois bien où est-ce que ça peut nous mener que de s'en tenir là. D'une part, certains te diraient, dans ce cas-là, plus de National Gallery, les trois quarts du Louvre sont des œuvres qui ont été volées, sont des butins de guerre, si tu veux. Donc, pareil, voilà. D'ailleurs, on va en avoir de plus en plus, hein, des problèmes de cet ordre. L'Égypte nous réclame bien des sûr. Œuvres. Tu connais toute cette problématique.
Et des Anglais, hein, alors là.
Et les Anglais. Et puis alors, tu vas dans tous les départements d'art médiéval, dans les musées, mais là, ce sont parfois des pans entiers d'églises qui ont été démontés. Vous avez à New York, The Cloistered Museum, hein, en l'occurrence. Bien sûr. Tu vois, alors sans verser dans cette mauvaise foi qui consisterait à dire heureusement encore qu'on avait nos musées au 19e, sinon il ne resterait plus rien au Caire, etc. Il ne s'agit pas de verser là-dedans, mais il s'agit de dire que la décontextualisation a au moins un avantage, c'est de ramener un regard de nature purement esthétique sur l'œuvre en question. Alors, je suis sûre que certains contesteraient mon propos, hein, là c'est vraiment en mon nom que je parle. Mais regarde un petit peu toutes les, par exemple, les icônes que l'on peut trouver dans les musées des Beaux-Arts, dans les premières salles, ce n'était pas du tout des œuvres dévolues à orner quelconque cimaise dans un musée. C'était des œuvres fonctionnelles, absolument pas exécutées dans un but décoratif ni même esthétique, et elles avaient pour but de faire plier le genou, hein, c'était pour accompagner la foi du fidèle. Bon, que serait notre connaissance du Moyen-Âge s'il nous manquait aujourd'hui ces œuvres-là? Et d'autre part, comme les historiens d'art spécialisés du Moyen-Âge ont le mérite de nous le faire voir, on a le droit de ne plus être croyant et d'admirer ces objets-là, par exemple, hein, voire de leur trouver justement des qualités plastiques puissantes. Combien d'artistes contemporains s'y sont référés, même un Yves Klein, si tu veux, ou un Armand, je ne sais pas, moi, voilà, des artistes aussi comme Soulages. C'est évident que Soulages est pétri d'art roman. C'est pas pour autant que, voilà, il appartient à une catégorie de spectateurs qui auraient la foi ou je ne sais quoi. Donc, c'est la... Ça, c'est la question de la conservation, bien sûr, qui se pose derrière ces témoins du passé. Et c'est en cela que le musée a un rôle essentiel aujourd'hui dans la cité. C'est qu'il nous met au plus près, au contact, voilà, de siècles, de dizaines de siècles d'histoire, et que enfermer l'art dans une approche uniquement politique, hein, au sens large, c'est prendre le risque de se couper de son histoire tout court. Et moi, ce que j'adore, c'est l'approche des guides de la National Gallery. Je trouve ça génial de rappeler, parce qu'il y en a qui ne vont pas main morte, hein. Ils te disent texto, c'est avec le sang des esclaves que vous admirez cette œuvre, etc. Bon, après, tu en fais ce que tu veux, mais ça n'enlève en rien que le fait est, que l'œuvre est admirée, admirable, gratuite d'accès, en l'occurrence pour les collections permanentes des musées anglais, je souligne ça, hein, c'est gratuit aussi, donc c'est de ce point de vue-là des lieux assez hospitaliers. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Non, mais oui, et je veux dire, on pourrait même faire des thèses, j'imagine, sur comment les musées dans un pays reflètent la culture locale, enfin d'actualité.
Alors ça, voilà, ça c'est encore le chapitre d'après, bien sûr. Montre-moi Montre-moi tes collections et je te dirai où tu en es sur toutes ces questions-là, bien sûr, bien sûr. Mais le documentaire National Gallery aborde tout ça de manière extrêmement intelligente.
Je vais mettre un lien, je vais mettre ça sur les show notes. Quand tu disais ça, ça me fait penser à un documentaire extraordinaire anglais qui n'a rien à voir avec l'art, mais c'est autour de l'hypothèse « Montre-moi un garçon de 7 ans et je te montrerai l'homme ». Et ouais. Ils ont fait un documentaire qui a tracé une vingtaine d'enfants à l'âge de 7 ans, ensuite à 14, ensuite à 21, et ça s'appelle 7 Up. Et il les a accompagnés pendant 63 ans, tous les 7 ans, jusqu'à l'âge de ce qu'il avait 70 ans, ce qui se passait. Et donc, pour voir si le garçon ou la fille de 7 ans est devenu ce qu'on pensait. Donc, dernière question, parce que là, le temps compte. On est en train de parler du passé qu'un musée peut raconter. Aussi est-il qu'amener la beauté, l'artiste dans l'entreprise, c'est un moyen de disrupter la pensée, amener de la créativité. Et aussi, et toi qui as cet œil-là que je n'ai pas, quand tu vois les tendances de l'art, de l'architecture, peut-être même si tu veux être encore plus large sur le film dont tu as évoqué quelque part, notre forme d'art, qu'est-ce que l'art nous dit de l'avenir qui nous attend après cette pandémie, on va dire, en fait, avec un œil futuristique? Comment est-ce que tu peux décrypter ce que tu vois? Par quel angle tu veux prendre, comme tu veux.
Oula, c'est vaste, effectivement. Alors déjà, il faut quand même reconnaître que j'en ai pas vu beaucoup d'expositions, que je suis logée à la même enseigne, hélas, que tout le monde, hein, depuis quelques mois.
Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'architecture en train d'être construite, j'imagine.
Il y en a, mais disons que les chantiers sont un petit peu à l'arrêt. Alors, tu as raison, hein, on parle de signaux faibles parfois pour qualifier l'art contemporain, la possibilité de détecter les signaux faibles de demain et d'une certaine manière se rendre dans des foires d'art contemporain comme la FIAC, ça serait, dit-on, potentiellement le moyen de prendre le pouls de l'avenir. Alors, je ne me dérobe pas, hein, mais moi, je suis plutôt spécialisée autour du 19e et de la première moitié du 20e. Tu vois à quel point il y a eu aussi, ça devrait mettre à l'aise tout le monde, une production artistique qui n'est pas restée. Tu vois, hein, comment distinguer un chef-d'œuvre d'une croûte, il y a aussi cette dimension. Hein, il y a beaucoup, je ne sais pas si Bernard Buffet, ça te dit quelque chose, ça a été une star en France, tu vois, ça ne te dit rien, c'est génial. Il était aussi connu que Brigitte Bardot. Georges Mathieu, une espèce de Pollock français, mais qui n'a pas du tout la notoriété de Pollock aujourd'hui, et bon, on ne sait même pas s'il aura son musée. Ce que je veux dire, c'est que c'est... les tendances que je vois, en fait, on prendrait un livre, je pense, de politique, sociologie, on aurait les mêmes. On va voir les développements du numérique dans l'art, si tu veux. Il y a l'art vidéaste qui existe déjà depuis Bill Viola et tout, mais aujourd'hui, tu vas avoir énormément de propositions autour du numérique. Tu vas avoir des problématiques comme celle, bien sûr, énorme de l'écologie, du transhumanisme, du clonage, et bien sûr, tout ce qui va avec aussi tout ce qui va avec la thématique de la transparence et de la dictature, etc. Tu vois, donc, je me méfie un petit peu personnellement. Tu vas comprendre pourquoi, d'un art qui nous dirait un peu de manière trop manifeste quelles sont les tendances d'aujourd'hui qui vont se consolider dans les années à venir ou devenir même notre réalité. Parce que ce qui me plaît dans l'art, effectivement, c'est sa faculté, ou plutôt notre possibilité de nous projeter, mais sans, comment te dire, sans avoir une image précise en tête, et encore moins un discours, parce que l'art raterait son objectif si précisément il atteignait Celui-ci. Je sais pas si je suis claire.
Non, mais c'est pour moi, si j'interprète, c'est je vais écrire sur le tableau transhumanisme.
Voilà.
Bon, enfin, c'est rien à voir avec je vais faire bleu au lieu du rouge.
Exactement.
Et voir ce qui se passe.
Exactement.
Il y a un qui est tellement intentionnel que c'est bon, c'est fatigant. Et puis, c'est trop. Il n'y a pas d'artiste pour moi. Enfin, il n'y a pas un côté chaotiquement créatif.
Oui.
Tandis que l'autre, c'est waouh, on va voir.
C'est ça, c'est ça. Et moi, j'aime les artistes dont les œuvres restent ouvertes, si tu veux. Et on sent, hein, mais c'est parfois très ténu, comme devant un chef-d'œuvre cinématographique. D'ailleurs, on peut percevoir des choses qui nous mettent mal à l'aise. Et si demain, ça allait être ça, ce que je peux te dire, c'est que l'utopie est un sujet récurrent aussi dans l'architecture d'aujourd'hui, que pour avoir enseigné aussi en école d'art et d'architecture, chaque étudiant passe un moment par un projet sur le voilà où il doit imaginer le monde de demain, la ville de demain. Et c'est une ville souvent verte, hein, pour aller vite. Ce que je peux te dire, c'est que ce qui apparaît comme intéressant aussi, je trouve, dans l'art d'aujourd'hui, c'est qu'on sort de la définition, enfin, j'ai envie de dire, de l'artiste romantique, puis de l'artiste maudit qui souffre et qui doit mettre ses tripes sur la table pour sauver l'humanité. Et on voit cette tendance d'un art plus collectif, plus coopératif. Je pense à l'artiste français Xavier Veillant, hein, dont l'atelier est conforme à une entreprise aujourd'hui. Il a sa petite entreprise, hein, il a troqué l'atelier d'antan contre l'entreprise. Et de fait, il ne se cache pas du tout sur le processus créatif qui est le sien, sur l'importance de ses collaborateurs, sur la réalisation in fine d'ailleurs en industrie, presque, il travaille comme un designer, quasiment. Hein. Voilà, Richard Serra, que tu aimes sans doute, bon, bah, tu vois bien que les moyens qu'il met en œuvre sans une équipe digne d'un chantier architectural ne seraient pas réussis. Bill Viola, c'est quasiment une équipe de cinéma qui l'accompagne quand il fait des photos, etc., etc. Donc, ce que je vois, moi, comme tendance, à la limite, c'est qu'on sorte aussi de l'individualisme créatif exacerbé pour quelque chose qui aille davantage du côté du co-développement, de la co-créativité. Et pareil en architecture, je vais te confier mon chouchou, ça fait quelques années maintenant, il s'appelle Shigeru Ban, hein, c'est un japonais qui a eu le fameux prix Pritzker, qui est très très renommé. Alors, il est connu pour avoir fait le centre Georges Pompidou à Metz, mais ce qu'on sait moins, c'est que Shigeru Ban est devenu célèbre en construisant des abris pour les catastrophes humanitaires, comme le tremblement de terre à Kobe au Japon, et qu'il a redonné aux habitants leur première dignité en les invitant à construire eux-mêmes leurs propres abris à partir donc de tubes de carton, hein, c'est le matériau de prédilection d'un architecte comme Shigeru Ban, de récupération justement de canettes et d'autres déchets, voilà, et de toiles pour la toiture. Et tu vois, ces petites cabanes de bois, elles sont esthétiques, elles sont écologiquement parfaites, on appelle ça le Laotech, et elles redonnent à leurs habitants leur dignité. Bon, voilà. Moi, j'aime cette idée d'un art aussi à venir qui se débarrasserait un peu des grandes stars de l'architecture qu'on admire tous, machin et tout, mais qui utilisent encore de l'aluminium ou des matériaux qui sont extrêmement nocifs, pour tendre davantage vers une architecture comme ça aussi collaborative à la Shigeru Ban et très très belle, hein, parce qu'en même temps il faut voir le traitement de la lumière, des détails, la sensation aussi du bois, du papier, du carton. Chez lui, c'est un art à part entière hérité de toute la culture nippone. Voilà, mais je réalise en te répondant, bien sûr, que c'est de moi dont je te parle. Et c'est un petit peu sur ça que j'aimerais conclure, en fait. C'est que je n'ai absolument, moi, aucune envie de me transformer en celle qui va prédire l'avenir de l'art de demain. C'est juste comment est-ce qu'on accueille cet art aujourd'hui en ayant en tête qu'il y a une production pléthorique et qu'il en restera probablement que 5% dans un siècle. Et comment, du coup, on s'autorise à devenir le critique d'art de l'exposition qu'on va voir, parce qu'il n'y a pas de raison, on peut aussi, en art, on peut porter un jugement sans que ça soit négatif, on peut se prononcer à condition de faire l'effort dont j'ai parlé et de sortir de soi et de ne pas attendre d'une œuvre d'art qu'elle nous flatte dans ce qu'on a déjà coutume d'aimer. Hein, voilà,
ça me fait penser aux œnologues. Enfin, si le vin, est-ce qu'on a le droit de dire c'est un bon vin sans savoir si c'est vraiment coté sur les mesures qui existent là-dessus. Et j'ai envie de dire aussi, dans l'art comme dans la musique, il y a quand même un phénomène peut-être qui existait depuis toujours, qu'on a l'impression que tout ça est dirigé. C'est celui-là qui m'entend, on va investir sur lui, on va montrer que, on va faire de la com pour que, et puis il ou elle monte en prix et tout d'un vieux devient une star. Or, quand j'étais en charge de faire un bâtiment en Toronto, on a pris un bâtiment, on n'avait pas le droit de toucher quoi que ce soit, et j'ai voulu choisir une œuvre d'art pour décorer l'entrée. Et volontairement, j'ai voulu choisir un artiste local au lieu de prendre un grand artiste du passé. Mais oui, comme ça, on s'intégrait, alors que vieux bâtiment, dans la modernité du coin.
Absolument. Ben ça, c'est aussi un autre aspect dont on n'a pas parlé, mais qui me paraît fondamental. C'est avoir recours aussi aux artistes du pays, on disait autrefois, le pays, la région, le local, et de valoriser aussi, évidemment, parce qu'on n'a pas abordé, et je préfère parce que c'est pas mon domaine de spécialisation, mais le marché de l'art, t'imagines bien qu'on aborde un chapitre là-dessus sur comment distinguer un chef-d'œuvre et une croûte, quand le marché de l'art se mue en jauge, hein, critique. Rien ne va plus, comme on dit. Oui. Et je mets vraiment, alors là, je conseille aux unes et aux autres de se méfier complètement de de ces critères-là, en tout cas, et de se faire une idée par soi-même, de vivre l'aventure pleinement, voilà.
Complètement. Alors, j'ai l'impression, Pauline, que nous avons à peu près une dizaine de chapitres à suivre. Génial. Tu vois, c'est la naïveté de mes questions parce que je connais pas les études qu'on fait là-dessus et donc. Mais voilà, c'est beaucoup de questions. J'espère que ceux qui l'écoutent vont se poser des questions là-dessus et surtout penser à lire tes livres. Donc, comment est-ce que quelqu'un peut te connecter avec toi ou acheter et trouver tes livres? Quels sont les meilleurs moyens de connecter avec toi?
Alors, sur LinkedIn, pour le moment, c'est le moyen le plus rapide. Voilà, j'ai un site qui devrait être finalisé bientôt, prochainement. Mais sur LinkedIn, il y a déjà pas mal d'informations. Il y a la référence de mes bouquins. On les trouve à la FNAC. Hein.
Voilà. Entre autres. Ouais, génial. Je mettrai tous les notes dans le show. Merci beaucoup, Pauline, pour tes éclairages. Tu nous as fait faire, enfin en tout cas moi, un beau voyage. Et j'espère que tout le monde se rue à regarder un peu plus la beauté, l'art et lit tes livres. Merci beaucoup, Pauline. Eh
ben, merci beaucoup à toi, Minter. C'était un plaisir. À bientôt.
Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man.
I like the feel of a stranger tucked around me. anticipating the thrill of your intellect. Maybe I tell myself there's no use in me lying. I'm a convinced man building an urge. I'm a convinced man to live and die submerged. A convinced man in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competition's innate. A convinced man in the arms of a woman. Despise revenges and struggle with deceit. Live for the challenge so life's not incomplete. What's wrong with challenge? I know soon we all die. I like the feel of a stranger tucked around me, precipitating the danger to feel free. Trust in my reason and let me show you why. I'm a convinced man practicing my lines. I'm a convinced man in these confines. A convinced man in the arms of a woman. I'm a convinced man, put me to the test. I'm a convinced man,
I'm ready, fire and arrest.
I'm a convinced man in the arms of a woman.
Welcome, change agents, to your go-to place for stories that ignite your spirit, fuel your purpose, and connect us all. We believe in the incredible power of the human spirit, its boundless resilience, and the inspiration it brings to our lives. On the Driving Change podcast, we'll journey together through the extraordinary yet very relatable experiences of some of the most amazing people on earth. Our mission? That through these stories, we might just spark change within you and awaken a newfound motivation to harness your unique gifts to make a real difference in the world. So get ready to be inspired and join us on this incredible adventure. You can find the Driving Change podcast on Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio, or wherever you love listening to your favorite podcasts.